Sud Radio, il est 4h. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Ça y est Frédéric, c'est notre dernier soir tous les deux avant de se retrouver cet été, mais on est encore avant, là pour 2 heures.
Oui,
hein. Bah
évidemment, voilà. Évidemment, oui, c'est toujours un plaisir d'être avec les auditeurs de Sud Radio. Nous passons comme ça de temps en temps, avec plaisir.
Allez, bienvenue à toutes et tous dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous le savez, Sud Radio c'est votre radio, vous nous appelez pour parler vrai au 0826 300 300, et puis vous votez à nos questions hein, du jour sur Twitter, vous nous rejoignez sur Facebook, Instagram, TikTok ou notre chaîne YouTube. Au sommaire pour vous aujourd'hui, notre grand débat à 17h30. Gabriel Attal et la coalition Renaissance Modem Horizon sont confrontés à un défi de taille à l'approche des élections européennes qui sont le 9 juin prochain, hein, compte tenu des 31% annoncés pour le RN par exemple contre les 17% de la majorité présidentielle. Pourquoi Valérie Ayé n'était pas plus mise en avant? Est-ce bien là la place de Monsieur Attal hein, au regard de tous les dossiers qu'il a déjà sur son bureau, Frédéric?
La question que nous vous posons, parlons vrai, hein, croyez-vous aux journées de 30 heures, aux semaines de 9 jours? Le métier de Premier ministre laisse-t-il du temps pour voyager, démarcher, tenir conférence? Gabriel Attal tiendra-t-il le rythme européen? Est-ce le rôle de Gabriel Attal de faire campagne? Vous répondez quoi?
Eh bien non, à 96%, c'est assez clair, cher Frédéric.
Bien sûr, nous aurons un expert pour en parler en termes de communication politique, Jean-Christophe Gallien, tout à l'heure.
Puis le coup de projecteur hein, qui arrive à 18h40. Les représentants d'Israël et du Hamas ont quitté le Caire après 2 jours de négociations. Benjamin Netanyahou maintient sa volonté d'une incursion à Rafah, ce qui déplaît fortement aux États-Unis. Et selon I24, la proposition de cesser le feu du Hamas en 3 phases incluait la première qui devait échanger les otages israéliens les plus fragiles contre des prisonniers palestiniens dans un ratio de 1 Israélien pour 33. Et dans les 33 otages que l'organisation terroriste rendait, les corps des décédés, comment négocier?
Parlons vrai, le conflit s'enlise et divise, Joe Biden tense Benjamin Netanyahou, la région se déchire, le monde s'interroge, comment trouver une issue? La question que nous vous posons, pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas à l'avenir et alors?
Eh bien non, à 89%, c'est assez clair aussi Frédéric.
Et nous aurons Caroline Yadan, députée Renaissance de la 3e circonscription de Paris, qui sera notre invitée tout à l'heure.
Et vous nous appelez évidemment pour réagir au 826 300 300. Vous votez sur le compte X de Sud Radio et puis nous sommes avec nos 3 vraies voix du jour.
Les voici.
Alors, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un Inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, chers amis.
En cravaté d'ailleurs, je le précise très très
toujours,
bon.
Toujours très classe.
J'étais à la télé ce matin, alors j'ai fait une promesse à mon épouse, à chaque fois que je vais à la télé, je mets une cravate.
Oui. D'accord.
Votre charmante épouse que vous saluerez de ma part.
Oui, mais...
Et on lui passe le bonsoir d'ailleurs.
C'est un sujet universel, c'est
la cravate, oui, c'est clair. Nous sommes avec Loïc Le Floch-Prigent, qui est ingénieur et dirigeant d'entreprise. Bonsoir Loïc.
Bonsoir.
Bienvenue.
Toujours fidèle au poste.
Toujours fidèle au poste. Et puis Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République.
Bonsoir.
Bien, bonsoir aussi.
À mon avis, ça va l'inspirer, le monsieur Corato, là, nos sujets, hein, aujourd'hui. Et très politique.
C'est toujours très inspirant. Vous êtes toujours très inspirant.
Oh, on adore. Envoyez des
compliments.
Voilà, compliments, merci. Ouais, cherchez mon mot,
Des fois, ça vient pas.
Allez, on file au 0826 300 300. On accueille notre auditeur du jour, Jacques. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Alors, Jacques, vous nous appelez
Je pense à vous parce que je suis en Bretagne actuellement.
Ouais, vous êtes à Saint-Lô, hein, c'est ça?
Et franchement, c'est sublime. Voilà.
Ah, c'est gentil de nous envoyer du soleil et du bonheur.
Mais vous êtes où en Bretagne? Parce que
c'est mon coup de cœur,
à Saint-Lô, a priori. Mais c'est où Saint-Lô?
Mais Saint-Lô, c'est
dans la Manche.
Là, vous n'êtes pas chez vous, quoi.
Bah si, on est chez nous partout. En partageant des choses avec des humains, tout à fait. Voilà.
Allez, très rapidement, Jacques, vous nous donnez un petit aperçu de ce que vous allez dire dans quelques instants. On vous écoute.
Eh ben, c'est simplement sur nos élus qui respectent pas, hein, qui profitent, qui s'allouent des augmentations, 300, 700 euros. Mais c'est sûrement également au sujet des conflits. Je pense à la chanson de Bellavoine qui dit « Quelques hommes font la loi ». Parce que c'est le peuple qui déroule.
Ça c'est magnifique.
Vous allez nous en dire plus dans un instant,
hein, vous le savez. Hein, voilà, vous vous préparez. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi.
Allez, puis on a un petit message sur notre répondeur de René de Haute-Garonne.
Bonjour, René de Boussin, Haute-Garonne. Vous m'avez alléché en annonçant que vous alliez débattre de ce que c'est qu'être français. Et j'ai peur qu'avec la logorée de la bonne femme du SNES, on oublie le sujet. Le SNES est très largement responsable de la perte d'autorité des professeurs. Bon, moi je crois qu'être français, c'est d'abord être héritier d'un peuple qui est là depuis 2000 ans. On est sûr que quelqu'un est français, donc il a... comme langue maternelle, le français est un patois, pour parler comme les parigots. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres français, mais au moins ces gens-là qui parlent le français et un patois, on est sûr qu'ils sont français. Après, les autres, on ne sait pas. Je ne sais pas où est la limite. Merci.
Une petite leçon de René de Haute-Garonne hein, sur ce que c'est qu'être français, Philippe Bilger.
Oui, parce que lui, en plus, qui est le président de l'Institut de la parole, sur la langue, alors.
Je ne serai pas complètement hostile au point de vue de notre ami, que je ne sens pas objectivement très nuancé. Mais le sujet qu'il évoque susciterait un débat qui pourrait faire nos deux heures. Oui. Clairement, qu'est-ce qu'être français?
Tout à fait, Loïc le Floch-Prigent.
Oui, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Mais enfin bon, ici aussi, celui qui est français, c'est celui qui veut l'être.
Ah, c'est moi. Très juste.
Et celui qui ne le veut pas, il a du mal à le devenir.
Voilà. Et alors j'ai une question. Le Wallon, est-ce qu'il est français puisqu'il est francophone?
Ah, ça,
ça c'est une
voir,
question idiote.
Hein. Donc, c'est pas une histoire de langue.
Que,
hein.
C'est pas une histoire de langue, quand même.
Est-ce que le Wallon a envie d'être belge ou est-ce qu'il a envie d'être français? C'est tout.
Comme le Québécois,
ou le Congolais qui parle français. Donc, est-ce qu'il a envie d'être français?
C'est pas sûr.
Est-ce qu'il se sent français ou pas? C'est tout. Et donc je regrette qu'il y ait beaucoup de gens qui soient français et qui ne se sentent pas français. C'est ça, c'est mon regret essentiel.
Bon, Nicolas Corato.
C'est une très belle idée, l'idée d'être français. C'est une très belle idée qui est une idée, depuis la Révolution française, qui est une idée universelle et qui n'est pas limitée aux gens qui sont nés quelque part. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on maltraite ce sujet. Qui est un très beau sujet, très souvent maltraité.
Et on a réussi le tour de force de ne pas citer une seule fois Ernest Renan.
Bravo. Bravo.
Pourquoi? Expliquez-nous.
Ah ben parce qu'en général, sur ce thème, on cite Ernest Renan qui a donné des pensées, peut-être pas définitives, mais qui suscite réflexion.
Donc, ils étaient tous... bretons de Tréguier comme moi.
Vous êtes de Tréguier en Bretagne.
Non, c'est du Trégor.
De Trégor,
c'est dont Tréguier est la capitale, l'évêché de Tréguier.
Très bien, voilà, très
c'est
bien.
C'est ça, donc Ernest Renan a sa statue à Tréguier.
Lisons Ernest Renan.
Voilà.
Lisons
Absolument. Ernest Renan. Avec le crâne de Saint-Yves.
C'est un breton qui parlait français.
Voilà. Oui, Nicolas,
est-ce qu'on ferme la parenthèse alors?
sur quoi? Sur le fait d'être français?
Oui.
Bah fermons la parenthèse, si vous avez envie. Et alors, Jacques, vous êtes de notre auditeur du jour, 0826-300-300, vous nous appelez, vous réagissez. Allez, on vous écoute, Jacques.
Oui,
sur l'exemplarité des élus.
Oui, de ce que je viens d'entendre sur êtes-vous français, j'aurais tendance à dire non, il n'y a pas plus de français que de... Nous sommes le peuple et nous voulons simplement une qualité de vie et que les gens soient les plus heureux possibles. Parce que la différence, c'est de vous français, de vous pas français. Moi, je suis auvergnat, si vous voulez, tékel, berger allemand, quoi. ce que je dis, ça veut rien dire. Mais je veux dire par là qu'il y a une telle richesse d'échanges entre les peuples que je reviens sur Balavoine. C'est simplement, comment dirais-je, les désunions qui se passent actuellement. Et ça, tout le monde en souffre. Alors, savoir si nous sommes français ou pas, moi, je suis fier d'être moi-même et puis et d'aimer les autres, point. Et je fais pas de la religion. Hein.
Alors, justement, pour en revenir à nos élus qui vous fâchent un peu, Jacques, allez-y, lâchez-vous, parlons vrai.
Picon.
Vous savez, ça fait un moment que ça nous fâche parce que j'ai 75 ans. Je m'excuse, je suis enroué. Hein. J'ai 75 ans et on avait tellement fait la fête quand Mitterrand avait été élu qu'il avait commencé 2 ans après à nous descendre, quoi, enfin, à commencer à faire la misère, quoi. Et là, depuis plus de 40 ans, on a le sentiment d'être toujours baladé, quoi. Alors, j'ai des convictions, j'étais syndiqué, j'avais une conviction, la France insoumise, qui m'a énormément déçu. Ne parlons pas du Front National et des, et du tyran, là, comment il s'appelle, enfin bref, Zemmour.
Parlons vrai sur Sud Radio.
D'accord, bon, c'est peut-être pas...
C'est pas la peine d'attaquer les gens sur le physique.
Le physique ou même sur le... Bon, bref, en tout cas, bon, vous ne partagez pas son point de vue à Éric Zemmour, voilà.
Allez, continuez. Oui, allez-y, Jacques.
C'est la gangrène du peuple, il faut que les gens s'instruisent, lisent l'histoire et se rappellent de ce qui s'était passé, ne pas se faire piéger. Malheureusement, on va se faire piéger comme pour les années 33, 36, on va se faire piéger pareil. Voilà.
Bon, alors réaction autour de la table sur les propos de notre Jacques qui est en forme, qui est en Bretagne.
D'une part, il a vanté la qualité de la vie et souhaité le bonheur, et ça n'est pas incompatible avec le fait de se dire français. Hein. On a le droit de s'interroger sur la condition, mais pour le reste, je le trouve à la fois très humaniste, puisque, au fond, le monde tout entier est son domaine, et en même temps, il est un peu dur à l'égard de la France et de la classe politique.
Loïc, le floc Prigent.
Oui, on a les hommes politiques pour lesquels on vote. Par conséquent, c'est le peuple qui vote pour eux. On peut le regretter, on peut l'admirer, on peut faire ce qu'on veut. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de savoir ce que l'on veut collectivement, est-ce qu'on peut faire collectivement. Et je pense que la France est un très beau pays qui a énormément de personnalités et qu'il faut essayer d'aller de l'avant. Et donc je voudrais retrouver dans la population française et dans les commentaires d'auditeurs et un peu d'enthousiasme. Parce qu'il y a de l'enthousiasme à avoir aujourd'hui sur ce qui est fait et ce qui peut être fait. Et il faut retrouver ça. Et peu importe finalement les hommes politiques et les jugements qu'on peut avoir sur eux, l'essentiel c'est on peut faire des choses, on peut faire des choses ensemble et on va les faire ensemble.
Nicolas Corato, il faut s'enthousiasmer en quelques instants.
Oui, ce qui est intéressant chez votre auditeur, c'est que, et ça c'est typiquement français, voilà un citoyen et qui a des raisons de l'être, qui est particulièrement déçu par les 40 dernières années de politique et pourrait même dégoûté de la politique, mais qui vous appelle pour vous le dire. Et donc, il y a en France un vrai problème entre les Français et leurs représentants, et en même temps, un goût de la politique et du débat citoyen qui n'a jamais cessé. Et c'est pour ça que moi, je partage une forme d'espoir. C'est que tant que les Français s'intéresseront à la chose publique, même pour dire à quel point ça les dégoûte, d'une certaine manière, on n'aura pas tout perdu, on aura de quoi être sauvé. Voilà.
Il
faut être un peu enthousiaste aujourd'hui et un peu positif.
Voilà.
L'émission est lancée.
Allez Jacques, vous restez avec nous, hein, 0826-300-300, vous pouvez réagir, vous restez avec nous dans un instant, on va se retrouver pour les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu, puis le réquisitoire du procureur. À tout de suite.
Sud Radio Marseille, 95.1 et en DAB+.
Sud Radio. Son lit, tellement sûre d'elle, la scène, tellement jolie, elle m'en sorcelle, la scène, extra lucide, la lune est sûre, la scène.
Je le respire, nos reflets pêchés. sur ce pont.
Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Dans un instant, on retrouve Félix Mathieu pour ses trois mots dans l'actu, mais tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur Philippe Bilger.
Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur Philippe Bilger.
Philippe, contre la critique systématique du cinéma français. D'ailleurs, vous y tombez parfois. Hein ?
J'y tombe même assez souvent, en réalité. Et bizarrement, ça n'est pas tellement éloigné du point de vue de notre auditeur. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Et j'ai vu hier un film extraordinaire, Le tableau volé, de Pascal Bonnivers, et qui m'a fait penser que parfois, j'exagérais en aimant prioritairement les grands films américains, selon moi, qui arrivent après un tri impitoyable qui est déjà fait là-bas. Et donc, j'avais tendance à dire que le cinéma français était parfois médiocre, avec les mêmes histoires vaudevillesques, le trio, l'amant, le mari, l'épouse. Mais en réalité, c'est très injuste. Quand on voit un bijou comme Le tableau volé et d'autres grands films français, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je sorte moi-même et d'autres avec moi de cette critique un peu systématique qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit tous les deux, ce manque d'enthousiasme qu'on a pour tout ce qui est français, comme si tout était gangrené par une politique qu'on peut ne pas aimer. Ça n'a rien à voir avec toutes les autres facettes de la, du succès français.
Il y en a marre des Gaulois réfractaires, hein, c'est ça qu'on entend le Claude Prigent.
Non, moi je vois des films français absolument exceptionnels et j'en vois toujours. Donc il s'agit simplement, comme disait l'Évangile, de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est tout. Enfin, disons qu'il y a des créateurs, il y a des acteurs absolument extraordinaires et
qui s'exportent d'ailleurs de plus en plus. Hein,
qui s'exportent. Ouais. Donc vraiment cette espèce de mépris est stupide et j'espère un grand succès.
Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait réfléchir en général le cinéma français, donc les gens qui ont parlé de réfléchir.
Moi quand je vois en Chine ou au Japon le succès qu'a Sophie Marceau, c'est absolument exceptionnel.
C'est une star internationale.
On a l'impression que c'est qu'elle connaît la moitié de la Chine et du Japon. Quoi. Donc il y a un vrai truc de mépris stupide des Français. Alors certes, il y a des films qui sont des navets, c'est clair.
Hein, on a un certain nombre.
Certes, ils sont financés par le Centre national du cinéma et souvent de façon indue, parce qu'on sait bien que c'est des navets. Tout le monde sait que c'est des navets, qu'on va faire des navets. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des films absolument exceptionnels et des acteurs exceptionnels.
Puis du coup, ça relance l'idée de consommer des navets parce qu'on mange plus beaucoup de navets. Et c'est bon pour la santé.
Les légumes, c'est bon pour la santé. Ouais.
Ouais. Nicolas Corato, alors.
Oui, tubercule. Moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Le cinéma français, d'abord, on a de la chance d'avoir encore un cinéma français et on peut rendre hommage parfois à nos élus, nos représentants politiques. Il y a des hommes et des femmes politiques qui se sont battus il y a quelques années. Souvenez-vous des négociations sur le GATT avec l'exception culturelle pour que notre système de financement du cinéma français perdure et continue à nous permettre de produire un cinéma national, ce qui est une quasi-exception dans le monde. Hein. Regardez même en Italie, le cinéma italien a quasiment disparu. Il est financé par des producteurs français. Le cinéma grec a quasiment disparu. Le cinéma allemand a quasiment disparu. Le cinéma anglais a quasiment disparu. Et ce sont aujourd'hui des financeurs français qui permettent à tous ces cinémas nationaux de perdurer face aux colosses américains. Donc c'est un vrai sujet. Et peut-être dire aussi que il y a une tradition en France qui est la tradition de la critique cinématographique, qui est très dure. on a une critique qui est très, très difficile, très dure, très exigeante, et elle a raison de l'être. C'est vrai que on a du mal à séparer parfois le bon grain de l'ivraie. Mmh. En France, on laisse voir l'ivraie. À Hollywood, finalement, ce que vous disiez, hein, les mauvais films, on les voit pas parce qu'ils passent pas la rampe. Nous, on présente tout. Alors, dans le tout, il y a du très bon, il y a du très mauvais, mais on a quand même la chance encore de voir des films faits par des Français avec une culture française importante.
Et on a l'éducation.
On est obligé de passer à du très bon.
Allez, les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio.
Félix Mathieu, vos trois mots du jour, commissariat, esclavage et Eurovision.
Un policier entre la vie et la mort après l'attaque sanglante de cette nuit dans le 13e arrondissement de Paris. L'auteur d'une attaque au cutter s'est emparé de l'arme de service d'un agent une fois dans le commissariat. Gabriel Attal annonce une exposition nationale sur l'esclavage l'année prochaine pour les 25 ans de la loi reconnaissant ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et puis, est-ce que ce sera enfin pour cette année, en cette veille d'Eurovision, Slimane pour la France et sa chanson « Je t'aime » remonte dans le top 5 des books Makers, les sites de Paris.
Les vraies voix Sud Radio.
Encore beaucoup de questions sur l'attaque sanglante de cette nuit dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris. Le pronostic vital de l'un des deux policiers blessés reste engagé ce soir. Hier soir, un homme a agressé une femme au cutter avant d'être arrêté. Mais une fois au commissariat, il s'est emparé de l'arme de service d'un policier avant de blesser deux fonctionnaires par balle. Un nouveau choc pour la profession, réagit Jean-Christophe Couvy, le secrétaire national du syndicat de police Unité.
Dans les commissariats, effectivement, on pensait qu'à un moment donné, c'était un sanctuaire. On s'est bien rendu compte, malheureusement, dans les dernières années, que même dans les commissariats, les policiers ou les administratifs ne sont pas en sécurité. On a vu il y a quelques semaines de cela, malheureusement, une attaque au couteau au commissariat de La Rochelle. Là, c'est une affaire différente où c'est une personne qui est interpellée, qui était en train de vouloir tuer une femme. Donc, c'est un individu très dangereux. Mmh. Et puis après, on est obligé de procéder à des gestes à l'intérieur du commissariat, notamment pour le faire souffler à l'éthylomètre, pour savoir s'il est compatible avec une garde à vue ou pas. Et donc, la procédure, c'est d'enlever les menottes pour pouvoir permettre à la personne de procéder à ce test. Vous ne savez jamais qui vous avez réellement en face de vous.
Jean-Christophe Couvy du syndicat Unité avec Stéphanie Demuru ce matin sur Sud Radio. Et puis l'actu côté police-justice, c'est aussi la disparition d'un magistrat emblématique, l'ancien juge d'instruction Renaud Van Rumbeck. Il s'éteint à l'âge de 71 ans. Il avait pris sa retraite en 2019 après avoir instruit de nombreuses affaires politico-financières.
La constante que j'ai eue, plus ou moins bien, j'en sais rien, pendant 45 ans, c'est de faire mon travail. Quelle que soit la personne que j'avais en face de moi, ou qui pouvait être mise en cause. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit puissant, qu'on ne le soit pas, le traitement doit être le même, exactement le même.
Réaction d'Éric Dupond-Moretti à cette disparition. La France perd un grand magistrat et la justice un immense serviteur, écrit le garde des Sceaux.
Le deuxième mot, esclavage, Gabriel Attal commémorait son abolition aujourd'hui.
Le Premier ministre annonce une exposition nationale l'année prochaine pour les 25 ans de la loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Gabriel Attal l'a dit tout à l'heure lors d'un discours à La Rochelle.
Ici même, pendant deux siècles, à travers les tours de La Rochelle, à 447 reprises, des expéditions ont pris le large, scellant les destins d'au moins 160 000 femmes et hommes venus d'Afrique. Le destin de 160 000 femmes et hommes parmi les millions de victimes de la traite et de l'esclavage. Le dire, le reconnaître, ce n'est pas s'affaiblir. Au contraire, c'est grandir. Ouvrir les yeux sur le passé est toujours la meilleure manière de bâtir l'avenir. Toujours la meilleure manière de construire la concorde et la paix. Trop longtemps, un voile a été jeté sur ce passé. Trop longtemps, la mémoire de l'esclavage a été enfouie.
Le Premier ministre tout à l'heure à La Rochelle lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage.
Et on passe au rolling des élections européennes. Le RN confirme sa domination sur les intentions de vote.
32% désormais pour la liste Bardella devant Valérie Ayet de Renaissance qui reste à 17. Puis le PS qui reprend un demi-point à 13,5 avec Raphaël Glucksmann. Ensuite on trouve LFI à 8%, LR à 7,5, Reconquête à 6,5. Puis les écologistes à 6%. Un rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI à retrouver chaque jour à partir de 17h sur sudradio.fr.
Troisième mot, Eurovision. Moi, j'aurais dit victoire à la place, mais c'est pas grave. Les sites de Paris veulent croire que la France a ses chances cette année.
Oui, alors on s'emballerait un peu si on disait que Slimane est le favori, mais il a ses chances à en croire les bookmakers avec sa chanson « Je t'aime ».
Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas.
Slimane pour la France, désormais cinquième dans les classements des sites magnifique. De Paris.
Et il n'est pas trop nul.
Il est magnifique.
Oui, il est pas mal.
Voix magnifique. Hmm magnifique.
Il est cinquième derrière la Croatie, Israël, la Suisse, puis l'Irlande. Il semblerait en revanche que le candidat néerlandais n'ait plus aucune chance. Ses répétitions étaient interrompues à cause d'un incident. Bon, et puis je vous fais la petite piqûre de rappel annuel. Quand on parle Eurovision, évidemment, c'est cette info, ce marronnier qui fait mal. La France, donc, n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie-Myriam.
Comme un enfant aux yeux de lumière.
Et je vous laisse là-dessus.
Qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu
survolant la terre.
Bon, on chante sur Sud Radio.
Elle est très sympa, je l'ai vue ce matin.
Oui, oui.
Elle est adorable.
Eh bien voilà, Marie chers Myriam, auditeurs. Hein. Les trois mots du jour de Félix Mathieu, c'est fini pour l'instant. Et puis, on va se retrouver hein, juste après ça pour notre grand débat. À un mois du scrutin européen, Gabriel Attal s'est rendu en Bretagne pour soutenir la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Ayer.
Question du jour, est-ce le rôle de Gabriel Attal de faire campagne? Vous nous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Jean-Christophe Gallien, communicant politique, sera avec nous dans un instant.
Sud Radio Clermont-Ferrand.
88.1.
Sud Radio.
Je laisse le monde qui le veut. Qui le prend, je laisse la joie d'avoir des dents à ses genoux au ventre creux. Je dépose alors mes vêtements autour d'un rectangle tout bleu. Et pendant que le ciel prend feu, je m'accorde au soleil le vent des longueurs, des longueurs. Le plaisir d'étirer les heures. Je laisse la joie d'avoir des points à ceux qui luttent jusqu'au sang. J'abandonne les quelques brins de l'orgueil que la vie me tend. Les couronnes ne m'allant pas bien et je m'offre dans le couchant. Des longueurs, le plaisir d'étirer les heures.
Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, tout de suite, c'est le grand débat du jour.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
C'est que le débat de cette élection, c'est dedans ou dehors. Est-ce qu'on veut continuer à rester dans l'Union Européenne, bénéficier de tout ce que l'Europe nous apporte, ou est-ce qu'on veut sortir de l'Union Européenne?
L'écart qui se creuse entre Jordan Bardella et Valérie Ayer.
C'est très compliqué, mais on compte sur lui.
Une élection s'annonce comme une élection compliquée du point de vue des résultats.
Il va sauver la campagne, il va sauver la campagne.
Les poids lourds sont plutôt généralement en retrait, ils viendront évidemment en fin de campagne, je n'en doute pas.
Parce que malheureusement, le programme du Rassemblement National, quand vous le lisez ligne à ligne, c'est l'organisation méthodique de la sortie de la France de l'Union Européenne.
Gabriel Attal et la coalition Renaissance Modem Horizon sont confrontés à un défi de taille à l'approche des élections européennes qui sont le 9 juin prochain, compte tenu des 31% annoncés pour le RN par exemple, contre les 17% de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron souhaite que son Premier ministre s'engage au maximum en faisant des débats, des meetings, en allant sur le terrain. Pourquoi Valérie Ayer n'est-elle pas plus mise en avant? Est-ce bien là la place de monsieur Attal au regard de tous les dossiers qu'il a déjà sur son bureau, Frédéric?
Du coup, c'est la question que nous vous posons sur le compte X. Vous intervenez au 0826-300-300 sur Sud Radio. Vous avez la parole, les auditeurs. Parlons vrai, Gabriel Attal tiendra-t-il le rythme? Les questions européennes ne concernent-elles pas plus finalement le président de la République? La question, est-ce le rôle de Gabriel Attal de faire campagne? C'est la question qu'on vous pose.
Et alors, vous répondez sur Twitter, hein, déjà vous votez non à 96%, c'est assez clair.
C'est assez clair. Jean-Christophe Gallien est avec nous, communicant, politique et politologue, un habitué de l'émission. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Christophe.
Bon, Jean-Christophe, il connaît le principe. On fait
oui,
d'abord un petit tour
déjà
de nos vraies voix.
Voilà. Allez, Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que Gabriel Attal n'avait pas le choix, puisqu'on sait que c'est le président qui lui a demandé d'intervenir plus directement dans la campagne européenne et notamment de débattre bientôt le 1er juin avec Jordan Bardella. Mais il n'avait pas vraiment le choix non plus, parce que Valérie Ayer est une personne et une candidate, je trouve, très estimable. Elle fait tout ce qu'elle peut et sur l'Europe, de mon point de vue, elle ne dit pas que des absurdités. Mais manifestement, elle n'est pas douée pour ce qu'implique véritablement une campagne. Et il fallait donc que Gabriel Attal s'engageât. Il le fait. Et je crois que...
Pardonnez-moi Philippe, mais qu'est-ce que ça implique une campagne? Sur quoi elle n'est pas douée, Valérie Ayer?
Mais quand on l'écoute, oui, comme j'attache une certaine importance à la forme, et encore une fois, je l'ai vu récemment face à...
Jordan Bardella.
Jordan Bardella, ouais, pardon pour cet oubli. Et je l'ai trouvé au fil du débat meilleur, peu à peu. Mais tout de même...
Elle manque d'assurance, en fait.
Oui, on ne peut pas dire qu'elle a un impact fabuleux. Et donc, que Gabriel Attal vienne à son secours, aide sa liste, ça n'est pas absurde. Est-ce que, d'ailleurs, ça permettra de réduire l'écart entre la liste de Jordan Bardella, qui ne va pas bouger, ou très peu, et Renaissance, je n'en suis pas sûr. Et pardon d'être un peu long, j'ajouterais, j'espère que derrière tout ça, il n'y a pas une pensée un peu perverse du président de la République qui, si Gabriel Attal ne parvenait pas à réaliser l'objectif qui lui est assigné, eh bien se verrait d'une certaine manière sermonné et peut-être même perdre sa place.
Loïc Le Floch-Prigent, est-ce que vous pensez que finalement c'est aussi qu'on n'utilise pas les compétences et les vraies ressources de Valérie Ayer dans cette campagne et qu'on ne la met pas plus en avant, ce qui fait qu'elle est déstabilisée tout simplement?
Il est clair que lorsqu'on a écouté le débat avec Jordan Bardella, elle est préparée avec des éléments de langage. Or, dans les débats, surtout télévisuels, c'est l'improvisation qui apparaît comme l'élément dominant. Les éléments de langage apparaissent stupides. Donc elle n'était pas préparée, c'est clair, elle n'était pas préparée à l'improvisation. Alors, peut-elle en quelques semaines se préparer à ces débats? C'est compliqué pour elle. Et par ailleurs, on revient à la Ve République où, en principe, le chef de l'État est au-dessus de la mêlée et où le Premier ministre est le chef de la majorité. Et par conséquent, lorsqu'il y a une élection, il est chef de la majorité, il peut apparaître. Donc on n'est pas, institutionnellement, on n'est pas dans l'absurde.
Ça ne vous choque pas.
Bon, par contre, quand le chef de l'État, comme l'ARCOM l'a souligné récemment, intervient de façon permanente dans le débat, à ce moment-là, il perd de son rôle de chef d'État et on ne comprend plus quels sont les rôles relatifs entre le chef de l'État et le Premier ministre. Et c'est ça qui est déconcertant et c'est ça qui, aujourd'hui, est en train de perdre. On perd un peu le fil. Alors, le dernier point que je voulais signaler avant de laisser la parole à mon camarade, c'est que je pense que le slogan qui est de dire que ceux qui votent l'Europe, c'est les renaissances et que tous les autres sont contre l'Europe, est un slogan stupide. C'est-à-dire, si jamais il y a des gens qui sont là aux élections européennes, c'est que tout le monde croit en l'Europe. Et le problème n'est pas de croire en l'Europe ou pas, tout le monde croit en l'Europe.
Bon, ça, on aura le temps d'y revenir, mais, parce qu'on sort un peu de la question.
Il y a des conceptions différentes de l'Europe, mais je pense que le slogan est mauvais. Donc je suggère qu'on change de slogan.
Nicolas Corato, on peut aussi se poser la question du rôle du Premier ministre. Est-ce qu'il est en mesure de concilier ses responsabilités actuelles avec son rôle accru dans cette campagne ?
Bah, écoutez, moi je suis d'accord avec ce que dit M. Loïc Lefroc. C'est le rôle traditionnel du Premier ministre. Tous les Premiers ministres sous la Ve République ont mené des campagnes électorales en même temps que de diriger le gouvernement. Ça fait partie de la logique de nos institutions et de l'esprit de la Constitution. Donc je ne suis pas choqué, contrairement à vos auditeurs, je m'inquiète. Je suis surpris d'ailleurs que vos auditeurs soient choqués du fait qu'un Premier ministre fasse de la politique. Nous avons besoin de femmes et d'hommes politiques, pas de chefs d'entreprise. Le sujet, ce n'est pas l'emploi du temps ou l'agenda du Premier ministre. Ils savent gérer ça. Et la conduite de l'État, c'est aussi une conduite politique qui implique que des femmes et des hommes politiques s'impliquent dans des combats électoraux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il va avoir du temps ? Le problème, c'est qu'ils partent tous un peu en retard. Et puis surtout, à mon avis, ils viennent de prendre la mesure du scrutin et du résultat que pourrait faire M. Bardella. Je pense qu'il y a un peu panique à bord. Et ce gouvernement et ce quinquennat qui a tapé comme un sourd sur la gauche et sur la France insoumise, en préservant le Rassemblement national depuis le début de cette mandature, de cette législature, qui a même, d'une certaine manière, fait alliance avec le Rassemblement national en permettant l'élection de vice-président à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est l'acte de naissance de cette législature. Ouais. Aujourd'hui, se rend compte qu'il est complètement dépassé, non pas par les éléments de langage, mais par l'idéologie et la bataille culturelle que mène avec beaucoup de brio M. Bardella.
Nous avons
un Premier ministre qui est en retard et qui comble un retard qui a aussi été acquis par le président de la République.
Les vraies voix, vous venez de vous exprimer. Alors longuement, on avait dit une petite... mais bon, c'est pas grave, parce que c'était très intéressant.
Mais on a dit d'être court.
Hein. Là maintenant, Jean-Christophe Gallien, vous êtes un spécialiste de la communication politique. Jean-Christophe, répondez à nos auditeurs. Est-ce que finalement, c'est une démarche qui, en termes de communication, ne peut être que positive pour Gabriel Attal, ou est-ce que c'est contre-productif parce qu'il est en train de se mettre tout le monde à dos en faisant campagne alors qu'il devrait travailler ?
Non, je crois qu'il est obligé de travailler. C'est dans son acte de naissance. En fait, sa lettre de mission, elle date pas d'avant-hier ou de la semaine dernière. Elle date du moment où il est entré en fonction. Rappelons-nous que le président de la République a déclaré cette campagne d'abord aux vœux et ensuite à l'hommage rendu à Jacques Delors. C'est quelqu'un qui est déjà entré en campagne pour les européennes à ce moment-là, parce qu'il sait très bien lui-même que la cotation qui sort de cette élection, c'est pas la cotation de Gabriel Attal ni de Madame Ayer, qu'on ne connaît pas, encore moins du parti, mais d'Emmanuel Macron. Donc ce qui veut dire qu'une élection comme celle-là, qui est à la proportionnelle intégrale sur la totalité du pays, en une seule circonscription, c'est une cotation. C'est plus qu'un sondage, c'est la réalité du poids respectif des forces politiques à l'intérieur de ce pays pour la suite, les deux ans qui viennent avant la présidentielle. Donc se joue une partie qui, de fait, a vu le président de la République s'engager en campagne. Ça, c'est pas encore une fois la semaine dernière ou il y a 15 jours, il a commencé bien plus tôt. Gabriel Attal, de mon point de vue, il s'est un peu planqué, il s'est un peu caché. Il pensait pouvoir s'échapper. C'est vrai que c'est le rôle traditionnel du chef du gouvernement, le Premier ministre, d'être à la fois chef de gouvernement et chef de la majorité. Qu'est-ce que c'est cette majorité aujourd'hui ? C'est bien compliqué de le dire. Et c'est la majorité, rappelons-nous, une majorité qui croise celle qui est la majorité relative à l'Assemblée nationale, mais aussi celle qui peut s'exprimer dans d'autres situations géographiques ou en tout cas d'autres administrations, d'autres institutions, pardon. Et donc on est sur quelque chose qui évidemment est un piège terrible, parce que Qu'est-ce qui se passe pour Gabriel Attal? Évidemment, il va faire railler contre M. Bardella. C'était, encore une fois, je le redis, là, dans son acte de mission de départ. Et c'est pour ça, parce qu'on prend quelqu'un de 34 ans contre un autre de 28 ans. Et c'était déjà dit à ce moment-là, rappelons-nous, au mois de janvier. Et donc, aujourd'hui, voilà, il va rentrer vraiment dans la bataille parce qu'il est obligé de le faire. Il engage.
Mais ça peut le desservir.
Voilà. Bien sûr, il engage de fait aussi une partie de la suite pour lui, parce qu'Emmanuel Macron va le mettre face à une responsabilité qui est très forte, celle du résultat, mais il ne ferraille pas seulement contre M. Bardella, et surtout pas. Il va, ça a été dit, la maltraitance de la gauche, en tout cas de l'aile gauche, macroniste, et bien c'est là que ça se joue. Le marché électoral de M. Bardella, il est occupé totalement par M. Bardella, un peu les Républicains, et puis une partie Madame Maréchal. Mais de l'autre côté, Monsieur Attal, il a fait railler avec Madame Hayé, mais avec Monsieur Glucksmann, qui le talonne, et qui aujourd'hui l'embête, va l'embêter si jamais il passe en deuxième position. Et c'est un marché politique beaucoup plus encombré, beaucoup plus compliqué. Mmh. Et donc aujourd'hui, Gabriel Attal ou pas Gabriel Attal, ça va être très compliqué pour eux, mais rien de d'alarmant au fait de faire campagne, au contraire, c'est très constitutionnel comme ça a été dit, c'est même classique, même si lui a cherché à s'en échapper, parce que, évidemment, c'est un vrai piège politique.
Parlons vrai sur Sud Radio, on file au standard au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Jacques de Saint-Lô. Jacques, vous êtes là avec nous?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez raison, parce que d'autres auditeurs nous ont rejoints entre-temps. Bravo. Bon.
Alors Jacques, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il est à sa place, notre Premier ministre?
Bah écoutez, pas du tout. Moi, je dis que, à la limite, c'est une bouée qui est envoyée parce que le bateau Macron est en train de couler. Donc, il envoie une bouée pour sauver les meubles. Mais je pense pas que ce soit ça qui va sauver quoi que ce soit. Et puis, Monsieur Gabriel Attal a autre chose à faire que de rentrer en campagne. Voilà. Parce que ce qui est important, surtout, c'est que les citoyens votent. Ça, c'est très important d'aller voter.
Aller voter, ça c'est sûr, c'est très important.
Ce que dit Jacques, en fait, c'est la tendance de notre petite consultation sur le compte X de Sud Radio. On est à 95%. Alors, je vous entends tous.
On est à 96, exactement. Ouais,
96. On entend Jean-Christophe Gallien, Nicolas Corato, spécialiste, mais vous aussi, Loïc Le Floch-Prigent et Philippe Bilger. Il faut quand même avoir ça en tête.
Jean-Christophe, est-ce que le problème aussi de la liste macroniste, c'est que en général, aux européennes, le Front National ou le Rassemblement National obtenait des bons résultats. Mais le fait qu'aujourd'hui, si le résultat se confirme le 9 juin, la liste conduite par Jordan Bardella serait très loin devant. Est-ce que ça ne vient pas du fait que le citoyen français est frustré de n'avoir pas assez d'occasion de donner son avis, et que là, il va évidemment s'en servir contre Emmanuel Macron?
Pour répondre à cette question, il y a des paramètres nombreux dans une équation qui fabrique un vote, en tout cas des intentions de vote aujourd'hui. On n'est pas encore dans le vote définitif. Il faut laisser cette campagne se dérouler jusqu'au 9 juin. Je pense que ça, c'est important. L'entrée en campagne de Gabriel Attal peut peut-être bouger un certain nombre de points. Je vous le dis, il est plutôt menacé, non pas par M. Bardella, qui est sur un marché électoral et politique qui est très différent. Et donc, effectivement, la frustration, évidemment, des envies aussi positives, c'est pas toujours négatif. Il faut arrêter de penser aussi que les gens se positionnent parce qu'ils n'ont plus envie, ou qu'ils n'ont pas envie, ou qu'ils votent contre. Il y a aussi des choix très positifs. Et sur une consultation, je vous dis elle est européenne, mais elle a été tellement renationalisée, pas seulement pour balader partout en Europe. Je veux dire que c'est le cas partout. C'est les enjeux traités à 80% ou alors 70-30, c'est d'abord du national et après de l'européen. Évidemment, c'est très intégré quand on connaît les affaires, mais pour les gens, on parle d'abord du local, du national, et ensuite effectivement de la dimension européenne, qui est souvent caricaturée, souvent utilisée pour évidemment expliquer des difficultés. Mais c'est vrai que les consultations sont d'abord national, on va dire, concrètement, et touche finalement un objet politique nationalisé ou renationalisé. Et à partir de là, la difficulté pour le clan Macron, c'est que, évidemment, cette cotation, je le redis, celle, et c'est pour ça que d'ailleurs tous les partis y vont seuls ou quasiment, parce qu'ils veulent fixer un rapport de force pour la suite. C'est quoi la suite? Les deux ans qui viennent, les élections législatives et surtout présidentielles qui viendront et qui se préparent déjà là. C'est un avant-premier tour, si vous voulez. Et donc,
Bon, il faudra quand même.
Alors, si on présentera pas dans deux ans, eh ben, c'est son camp qui est en difficulté, vous voyez.
Ok, ok, Jean-Christophe Gallien. Il faudra quand même nous expliquer combien de temps il reste à notre Premier ministre pour aller en campagne, sachant la somme de travail qu'il a. Ça vous semble... Mais Nicolas Corato, moi je suis désolé, vous êtes un spécialiste, mais moi je pose la question que tout le monde se pose.
C'est une question de spécialiste, c'est une question à un moment aussi de sincérité. Franchement, un Premier ministre, il n'est pas là pour pointer, vous voyez. Il n'a pas son badge le matin quand il part et quand il revient. Un Premier ministre, il travaille 24 heures sur 24, il fait de la politique 24 heures sur 24.
Il fait d'une certaine manière, parce que s'il dort pas,
vous imaginez, si on avait un Premier ministre, un chef du gouvernement qui dirait, voilà, il va y avoir une élection au suffrage universel dans un mois, ce sujet ne m'intéresse absolument pas.
On peut se poser la question du choix de la candidate. Pourquoi ils ont choisi une candidate qui n'a pas les épaules, et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, c'est un homme qui prend la parole à la place d'une femme? On peut targuer ça de phallocratie.
C'est un autre sujet. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Cette candidate, Valérie Ayé, est plutôt une bonne candidate. Je pense d'ailleurs qu'on aurait pu lui laisser plus de temps et la préparer en amont par rapport à la liste qui est arrivée très tardivement pour la mettre en orbite, entre guillemets. Après, elle est, à mon avis, très mal conseillée, très mal entourée. Je pense qu'il faudrait qu'elle fasse appel à Monsieur Gallien plutôt qu'aux conseillers qui l'ont préparé pour ce débat où malheureusement elle a été bonne, mais
petit
surtout à la fin et très mauvaise au début. Donc là-dessus, il faut aussi que nos gouvernants et nos hommes et les femmes politiques soient bien conseillés. C'est un métier aussi de conseiller un homme ou une femme politique. Ça s'apprend. Il faut pas confier ça à n'importe qui. Il faut aussi arrêter de prendre de mauvais conseillers. Mais pour le temps de travail du Premier ministre, n'ayons aucune inquiétude. Georges Pompidou faisait campagne. Et je ne me souviens pas qu'on ait dit que Georges Pompidou fut un mauvais Premier ministre.
Et on ne pose même pas la question à Loïc Lefroy-Prigent, parce que lui, il a été PDG, et forcément, vous travaillez 24 heures sur 24 aussi, mais bon, c'est comme ça.
Ça n'a pas de sens. La question qui est posée, la réponse qui est donnée n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un Premier ministre, ça fait de la politique, et ça fait de la politique compte tenu des priorités.
Et il est obligé de se droguer, c'est dur ce que
vous dites. Il est normal que la priorité soit d'essayer de redresser la barre des sondages. Et par conséquent, il s'y engage. Je trouve ça parfaitement naturel.
Vous étiez parfait. Merci, Jean-Christophe Gallien.
On rappelle que vous êtes communicant politique et politologue. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous croyez que je vais réussir à le dire?
Oui, on va jouer. Alors nous en fait, on joue 24 heures sur 24. C'est vrai qu'on dort pas
toutes
finalement
les nuits,
non plus.
Tout le temps. Allez, c'est qui l'a dit dans un instant? Restez avec nous.
Sud Radio apte.
95.3.
Sud Radio.
D'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur, et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé. À personne. Cette foutue ligne d'arrivée, on m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter, que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi,
On m'a demandé de me taire, de tout garder en dedans. L'émotion, à quoi ça sert? T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire, et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières, les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne.
Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Et vos vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, Loïc Le Floch Prigent et Nicolas Corato. Ils sont prêts, vous êtes prêts?
Oui, on y va, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Et nous accueillons celui qui aura la main, quoi qu'il arrive, cher vraie voix, c'est Jacques, notre auditeur, je le rappelle, de Saint-Lô, dans la Manche. Jacques, vous êtes là?
Oui, bien sûr.
Vous êtes chaud, Jacques?
Oui, je suis là.
Bon, alors, je rappelle le règlement. Vous laissez répondre Jacques. Si Jacques tergiverse, baguenaude ou tâtonne, alors à ce moment-là, les vraies voix, vous intervenez.
C'est Philippe qui intervient. C'est toujours
Allez, c'est parti, on compte les points pour 2 points, Judith.
Allez, c'est parti. Au sujet de Jules, je pense que ça a un peu gâché la fête, cette histoire. Il rend hommage à la zone, il ne rend pas hommage aux Jeux Olympiques.
Qui a dit ça?
Jacques.
Selon vous?
Alors, je dirais le Front National.
Eh bien, non, c'est non, non, ce n'est pas question. Oui, Renaud Muselier, Philippe Bilger, le président de la région. Le président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour 1 point seulement, et vous allez comprendre, écoutez bien. Nous sommes le 10 mai, et au sujet du 10 mai 81, qui a dit « Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces de création, des forces du renouveau, qui se sont rassemblées dans un grand élan national. » Qui a dit ça, Jacques?
C'est facile.
Alors, je pense...
Bah non.
Ah bah non. Alors mais François Mitterrand, François Mitterrand, Nicolas Corato.
Bon, celle-là, on me la laisse.
Un point. Allez, maintenant, on joue pour 3 points.
Qui c'est qui l'a dit hier sur le Tour d'Italie cycliste? Ça fait mal de passer si près.
Alors, Jacques? Sur le Tour d'Italie cycliste. Bah. Et vous êtes en Bretagne, là, vous êtes impardonnable. C'est le pays du cyclisme.
Impardonnable.
Le Béraud, Bernard Hinault.
Non, non, bah, ça fait bien longtemps qu'il court plus.
C'est Alaphilippe, peut-être.
C'est Julien Alaphilippe de Philippe.
Bien sûr. Il a loupé de peu.
Il fait deuxième derrière un Espagnol. En plus, c'est terrible.
Voilà. Allez, messieurs, Philippe est en train de vous écraser.
Pour 3 points, qui sait qui l'a dit? Nous allons modifier la formation initiale de nos professeurs. Qui a dit ça, Jacques?
Mais qui a dit ça?
Nous allons modifier la... Allez-y.
Je sais pas, mais ce sont des belles déclarations, ça ne sert à rien.
Beloubet, Nicole Beloubet, Philippe Bilger est en train de faire une démonstration.
Une écrasade
à chaque fois. Nicolas le sait,
il n'a plus d'adversaire.
Moi aussi, mais on laisse parler parce qu'on a envie que tu gagnes.
Voilà. Allez, qui c'est qui l'a dit, les amis?
C'est
à la
une
première
manière de ruiner ma victoire.
Attention, attention.
Écoutez bien, sinon on vous retire 2 points.
À la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, elle devrait être moins puérile et grandir.
Qui c'est qui l'a dit ça, Jacques?
Ah, j'aurais tendance à dire le maire de Nice.
Non, écoutez, vous ne répondez pas, mais à chaque fois vos réponses sont magnifiques. C'est ça que j'aime chez vous. Alors on va voir si les trois vraies voix. C'est un auteur connu.
Un auteur italien?
Non. Une fois.
C'est un auteur en danger, si ça peut vous mettre sur le...
Salman Rushdie.
Salman Rushdie, oui, bravo. 2 points pour...
Bon, je vous ai un peu aidé. Hein.
Oui, oui
mais... Nicolas. Bah, oui. Alors, ce qui fait 3 points pour Nicolas, Jacques et Loïc ne sont pas encore entrés en jeu. Et donc, l'immense Philippe Bilger avec 8 points.
C'est fini.
Eh bien, chers auditeurs.
C'est le Pogacar des vrais vous.
C'est voilà. Le Pogacar, le cycliste, mais, évidemment.
Et toi, tu pourrais être Vinaigrette.
Bon.
Il
faut y aller, mais je veux juste embrasser notre réalisateur, Benoît Gouttorme. C'est sa dernière. On y reviendra tout à l'heure. Mais je voulais que pour
Benoît.
Nos auditeurs de la première heure, ils sachent
mais
que.
Mais c'est pas une raison pour qu'ils soient pas contents parce qu'on va être en retard.
Oui,
alors.
Ben c'est
vous
pour
nous
ça,
appelez
je me
au 0826-300-300 si vous voulez jouer. Et vous restez avec nous. Hein. Dans un instant, ça va être l'info qui fait grimper au rideau, notamment de Frédéric Brindel.
Sud Radio Nice 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sud Radio.
En ville, le grain se lève, vent de nerf agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité.
Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple, mais à mon goût, c'est un peu vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd, ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche
de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh, que n'ai-je alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan, brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage.